Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où l'on parle de tout sauf d'immobilier. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la tradition. Et pour ce faire, eh bien, je suis comme d'habitude en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Ravi de vous accueillir pour cette émission du mois d'octobre. Et pour l'automne, Philippe, vous avez décidé qu'aujourd'hui, le thème serait eh bien, celui de la forêt.
Oui, on a coutume de dire que la France est le pays aux plus de 1000 fromages, mais on oublie à tort de mentionner que notre pays, c'est aussi sur lequel s'épanouissent plus de 140 espèces d'arbres, essences, espèces totalement différentes. Mais si l'on commence à parler forêt française, on plonge alors dans un temps long, car tout se joue sur plusieurs siècles. Plusieurs siècles pour que poussent et s'épanouissent feuillus et résineux. Plusieurs siècles pour qu'une histoire politique de la forêt française sans racines, si je puis dire. Vous l'avez compris, et en cette saison automnale, nous vous proposons une promenade en forêt, promenade à travers le temps pour comprendre comment le pouvoir politique du Moyen-Âge à nos jours a pris en compte, géré et exploité cette forêt française. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Daniel Perron.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Pour nos auditeurs, vous êtes docteur en droit, discipline que vous enseignez à l'Université Paris 1. Vous avez également été conseiller du ministre de l'Agroalimentaire de 2012 à 2014, avant de devenir chef de la prospective à l'Office National des Forêts, plus connu sous le nom de l'ONF. Mais ce qui explique aujourd'hui votre présence à ce micro, c'est la parution de votre livre « La forêt française, une histoire politique » paru aux éditions de l'Aube. C'est une contribution passionnante et très dense, près de 450 pages sur la forêt française. La ligne de force de votre livre, c'est que vous montrez que la forêt est progressivement devenue un objet politique. De Clovis jusqu'à nos institutions actuelles, vous vous attachez à décrire la façon dont les rois de France, en passant par la Révolution française ou encore l'État moderne que nous connaissons, ont organisé l'exploitation de nos forêts. Mais avant que l'on fasse ce saut dans le temps, chaque émission commence toujours par un court extrait sonore. On l'écoute.
Endroit sauvage, mais beau.
Où sommes-nous, monsieur mon père ?
Je me le demande précisément, monsieur mon fils. Ah, voici là-bas quelqu'un qui saura nous le dire. Hé, homme, approche un peu. Où sommes-nous ici ?
Oh, sur la colline.
Oui, mais quelle colline ?
Ah, ça, elle a point de nom.
Elle n'a jamais eu ?
Bon. Oh, je me rappelle qu'autrefois, le père de mon grand-père disait que c'était une terre qui avait appartenu à une très vieille famille.
Et qui s'appelait comment ?
Bon. Ah, elle s'appelait Versailles.
Le nom n'est pas vilain.
Oh, ah ben moi, j'en fais cadeau.
Alors vous avez peut-être ou sans doute reconnu le film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, où l'on devine, grâce à son accent rocailleux du sud-ouest, le roi de Navarre et de France, Henri IV. Bien sûr, il n'a jamais connu le château de Versailles, mais il était familier des parties de chasse qui se déroulaient dans cette forêt marécageuse, qui sera au XVIIe siècle largement coupée pour y ériger le château de Louis XIV. Daniel Perron, une première question sur l'histoire de nos forêts françaises que vous décrivez dans votre livre. Alors, on voit que la protection de la forêt est d'abord liée au fait que les rois ont en quelque sorte, entre guillemets, privatisé les forêts pour en faire des lieux de chasse et de loisirs. Et puis, la forêt va devenir encore beaucoup plus stratégique, puisqu'elle va servir pour mener des guerres, notamment en utilisant, bien sûr, massivement le bois pour la construction des flottes de guerre de Louis XIV jusqu'au Premier Empire. Alors, question très vaste pour commencer. À travers le temps long que vous étudiez, comment la forêt française a accompagné la croissance et le développement de notre pays ?
Alors, justement, là, vous avez passé un passage dans lequel il est question d'Henri IV. Henri IV, c'est le roi chasseur, connu comme tel, après d'autres. Mais justement, la forêt, c'est trois choses finalement dans l'histoire. C'est d'une part la chasse, effectivement, cet espace que l'on va contraindre, dans lequel on va garder, c'est sa première vocation, c'est vraiment cela, garder le gibier pour le loisir. Au fond, à ce moment-là, couper un arbre ou autre chose n'est pas très important. Il y en a, la population n'est pas très importante non plus. Donc nous sommes vraiment sur un moment historique où on ne se pose pas la question de la ressource. Le deuxième temps, c'est vraiment celui de la ressource, comme vous dites. Effectivement, on passe là à un moment plus important à partir du XIIIe siècle, en réalité, où la ressource, elle baisse et on a besoin tout simplement de bois. Par exemple, au XIVe siècle, c'est 20% du revenu du domaine du roi qui est donc lié au bois. Donc, par exemple, c'est la maison du dauphin, c'est la maison de la reine que l'on va financer à travers donc, la gestion du bois. Et c'est pour ça qu'on va avoir tout ce mouvement, finalement, d'économisation d'un espace qui est un espace de conquête, à la fois une conquête économique et qui va devenir une conquête sociale peu à peu. On va passer comme ça un mouvement assez long finalement jusqu'à 1669 où le roi décide de réorganiser l'ensemble. Alors c'est Louis XIV, hein, c'est Colbert évidemment. Il décide de réorganiser le droit qui est devenu vraiment chaotique. Plus personne ne sait ce qu'il y a dans les textes. Il faut savoir qu'il y a entre 3 et 4 textes par siècle.
Sur le bois, sur la forêt.
Ah, donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une logorée législative ancienne, tout simplement, qui marque l'importance. À chaque fois, il faut redire que le roi a l'autorité. Il va construire finalement l'État aussi à partir de cela. C'est la construction des eaux et forêts. Alors le mot apparaît dès le XIIIe siècle, 1219, mais il va grandir peu à peu. On va construire, on va centraliser. Dans un pays qui est tout sauf centralisé, mais on va quand même centraliser cette gestion-là. Et puis, au fond, cela va fonctionner bon an, mal an. Le XVIIIe siècle va être assez catastrophique hein, d'un point de vue de gestion forestière. Et finalement, la Révolution arrive et va mettre en place un peu un impérium du propriétaire, mais en scindant, on y reviendra peut-être, mais en scindant finalement deux modes de gestion, qui sont la gestion publique et la gestion privée. Bon, ça va fonctionner comme ça depuis, finalement, avec, à partir du XIXe siècle, une évolution, c'est le troisième temps, donc on passe de la chasse à l'économie, et on va passer vers l'environnement. Alors là, c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, où l'environnement commence à exploser, finalement, dans les politiques publiques.
Alors vous avez commencé à nous donner les temps forts un peu qui ont fait la dimension juridique de la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que ces temps forts ont apporté comme élément dont nous serions aujourd'hui les légataires ?
Alors, un premier temps fort dont on est aujourd'hui véritablement le légataire, puisqu'il existe dans le droit, c'est l'inaliénabilité du domaine public forestier. Il faut une loi pour pouvoir vendre une forêt publique. Vous devez passer par le législateur. Alors, il y a eu une affaire assez célèbre il y a une dizaine d'années avec la vente de la forêt de Compiègne, d'un espace qui a donné lieu à de la doctrine et par ailleurs à des décisions judiciaires. Ça, c'est vraiment lié. Alors, c'est l'ordonnance de Moulins qui donne ça. Donc, on est vraiment là, concrètement. Deuxième point, c'est quand même l'organisation. L'organisation administrative, alors elle a changé à partir de 1964 et la loi qui crée l'ONF, mais jusqu'à là, on avait une organisation, d'ailleurs certains les appellent encore les eaux et forêts,
bien sûr.
Donc ça montre bien qu'on n'est pas sorti de cette histoire.
Créée en 1669, comme vous le disiez.
Oui, oui. Et donc on est vraiment encore ce temps lent. Et il y a une idée, c'est celle de l'aménagement forestier. Une forêt, ça a un aménagement, c'est qu'il y a un document finalement qui donne sa gestion. Eh bien, on est dans la perpétuité de ça encore aujourd'hui. Ça fait plus de 1000 ans maintenant qu'on est sur ces modèles-là.
Alors, votre livre montre que l'administration, alors vous l'avez dit largement, qu'elle soit royale avec les eaux et forêts créées en 1669 ou encore le code forestier de 1867, donc l'administration a exercé un pouvoir fort qui fait que la forêt est devenue un instrument politique. À partir de quel moment dans l'histoire de nos forêts françaises, la pensée juridique s'est élargie pour prendre en compte la remise en cause de sa surexploitation, voire les impacts que le progrès peut avoir sur la gestion de la forêt ?
Alors là, moi, je fais deux temps, véritablement un peu distincts. D'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler le développement durable, les forestiers remontent à l'ordonnance de Brunois en 1346. dans lequel le roi explique, alors c'est Philippe VI de Valois, explique qu'il faut que la forêt puisse se soutenir perpétuellement en bon état.
Bon. Donc on est déjà dans les idées qu'on a aujourd'hui.
C'est déjà l'idée. D'ailleurs, se soutenir, sustainable development.
Absolument.
On est vraiment là, quelque chose. Alors aujourd'hui, on dit développement durable, mais en réalité, le terme initial, c'est bien soutenable. Mais c'est très anachronique de dire que c'est de l'environnement. En réalité, il a besoin d'argent. Donc il vend. Ouais, ce n'est pas du tout de l'environnement comme on pourrait le penser aujourd'hui. Pour avoir ce modèle, finalement, il faut attendre la fin du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, avec d'autres problématiques qui sont la gestion de l'eau, ce qu'on a connu, par exemple, il n'y a pas très longtemps, la vallée de la Roya. Là, il y a beaucoup d'accidents de ce type-là dans la deuxième moitié du 19e siècle. En fait, les montagnes n'ont plus de bois, donc on ne retient plus l'eau, c'est torrentiel. Et donc, il y a des travaux. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Surel, qui est vraiment le père de cette science des torrents, qui est un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, enfin des ponts et chaussées, pardon, qui va travailler là-dessus. On va avoir une loi de 1860 qui va commencer à travailler à ce qu'on appelle le RTM aujourd'hui, la restauration des terrains de montagne. Sur lequel on... Après, il y aura plusieurs lois, 1882 et autres. Mais on pourrait presque dire, d'un point de vue forestier, l'environnement tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de paysage, par exemple, c'est Fontainebleau. À cette période-là, c'est ce qu'on appelle la série artistique de Fontainebleau, pour les peintres de Barbizon. On va garder plus de 800 hectares, je crois que c'est 860 quelque chose, finalement, qu'on va préserver pour l'œil des peintres. Voilà, là c'est une première vision finalement de l'environnement forestier. Et puis on va comme ça continuer. La vraie fracture où on plonge vraiment dans l'environnement, c'est à partir de 1963 en réalité.
Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement on réalise que la préservation de la forêt est importante par rapport à l'environnement? Est-ce qu'il y a des faits générateurs?
En réalité, on est toujours sur cette longue durée de « on a besoin de retenir l'eau ». La forêt, on comprend en fait dès le XVIIIe siècle que ça a quelque chose à voir avec les pluies ou autres. Donc on a besoin de garder cette forêt. Après, en réalité, l'espace forestier, on en a besoin à la fois comme d'un produit économique, et c'est ce produit économique qu'on va essayer de gérer de façon environnementale. Et là, on a vraiment une tension. Alors, cette tension existe toujours. Elle est très, très forte aujourd'hui, en réalité. Sûr. Et elle va être très forte à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. En réalité, c'est simplement les idées politiques qui montrent. Alors, je crois que c'est Pierre Charbonnier qui a montré très bien l'évolution des usages de la nature. On arrive finalement au tournant du XXe siècle à se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait à la nature. Et finalement, c'est ça qui va amener petit à petit, partout, la prise en compte de la forêt.
Alors, toujours sur l'histoire de nos forêts françaises, vous avez un long passage sur la Révolution française, puis sur l'Empire, qui ont mis en place presque toutes les institutions que nous connaissons aujourd'hui. Vous écrivez notamment « Il est illusoire de penser que le XVIIIe siècle modifie le droit forestier. Il y a continuité, sous-entendu, entre l'Ancien Régime et l'époque post-Révolution. » Et dans ces élans de table rase de l'Ancien Régime, comment expliquer qu'il n'y a pas eu de grand soir de la forêt française par ces hommes politiques largement inspiré par les philosophes humanistes des Lumières?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle grand soir. Toujours la même chose en matière historique. En réalité, la Révolution, c'est d'abord une continuité du point de vue forestier. Au tout début, on dit la nation est la gardienne de la forêt. Et on met, comme c'est aujourd'hui dans le code encore forestier, ça a été remis dans le code forestier récemment, que c'est la nation sauvegarde la forêt. Alors, tout simplement parce que elle est de droit public, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle dépasse les intérêts particuliers. Et pourtant, alors on va avoir des discours enflammés de Barrère, par exemple, qui va expliquer combien le propriétaire privé est quelqu'un qui va détruire la forêt. Donc là-dessus, on est clair. Et pourtant, la doctrine révolutionnaire, c'est celle du propriétaire. Et donc, on va scinder en deux la forêt, l'espace forestier. On va d'un côté mettre la forêt publique, celle qui appartient aux personnes publiques. Alors, c'est le domaine privé des personnes publiques, ce qu'on appelle la forêt publique. Et puis, de l'autre côté, on va mettre les personnes privées. Alors là, on va vraiment diviser la gestion forestière, les personnes privées, elles, auront le droit de faire ce qu'elles veulent. Usus fructus et abusus, excusez-moi. On va très vite revenir dessus, tout simplement pour les questions de guerre. Ce qu'on oublie toujours, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la Révolution, c'est d'abord une guerre civile. Mmh. Et donc, même lorsque la loi du 29 septembre 1791 veut faire en sorte que l'on va construire une administration, comment est-ce qu'on peut construire une administration? Et je pense, moi, qu'il faut toujours revenir à cette base. Il y a un débat public, un débat politique, un débat intellectuel, mais il y a une réalité. Et la forêt, la gestion de la forêt, c'est d'abord la réalité. Et donc, on va en réalité attendre jusqu'en 1827 pour faire le code. Le code, il est prévu finalement dès 1791. On veut faire un code. Il va falloir attendre.
Entre-temps, on utilise notamment le bois, bien sûr, pour la partie guerrière que vous évoquiez, et notamment les bateaux, bien sûr.
Les bateaux, mais c'est toute l'œuvre de Colbert. Pourquoi est-ce que Colbert fait justement ce qu'on appelle aujourd'hui la forêt de Troncet, ces fameuses travées Colbert? C'est tout simplement parce qu'il voit, lui, dans un siècle, dans deux siècles, il faudra des bateaux. Voilà. Alors, il faut des mâts, il faut des bateaux, etc. Et il faut de l'énergie. Ce qu'on oublie est l'un des vrais enjeux. On n'est pas encore à l'économie du charbon à ce moment du XVIIIe siècle. On est encore à l'économie du bois. On fait du charbon de bois éventuellement, mais on ne fait pas du charbon de terre, comme on dit à ce moment-là. Et là, il y a une véritable évolution qui va se faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette ressource absolument stratégique.
Merci Daniel Perron pour ces premières explications. On va continuer notre voyage dans le temps avec la forêt juste après une petite pause musicale avec un titre que vous avez choisi. Ça s'appelle House on a Hill. C'est signé du groupe The Pretty Reckless. C'est un groupe américain. C'est sorti en 2014, juste avant qu'on l'écoute, Daniel. Pourquoi ce choix? Ça ne parle pas de forêt, visiblement, à premier abord?
Non, ça ne parle pas de forêt. C'est tout simplement parce que j'aime beaucoup cette chanteuse. Je trouve cette version particulièrement forte. Une guitare et une voix, pour moi, voilà. Quand la musique marche avec juste ça, c'est parfait.
Eh bien, on l'écoute, on va voir si tout le monde trouve ça parfait.
Merci.
Intention is to kill, and they will.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Complètement à l'Ouest avec notre invité en ce mois d'octobre, c'est Daniel Perron, qui est entre autres l'auteur de La forêt française, une histoire politique. C'est paru aux éditions de l'Aube. Alors Daniel Perron, si l'on en vient à notre époque, puisqu'on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé avant, mais il se passe encore des choses. On a tous en tête les méga-feux hein, qui, au cours de l'été, ont ravagé une partie de l'Europe, notamment la Grèce, hein, mais aussi le Var, également la Californie, avec ce feu que l'on a surnommé Auguste Complex Fire, qui a détruit la végétation hein, sur plus de 415 000 hectares. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire une superficie qui est équivalente à celle du département des Pyrénées-Orientales, pour bien comprendre la mesure de tout cela. Une question que nous avions déjà d'ailleurs posée hein, la philosophe Joëlle Zask, qui était venue à ce micro il y a quelques mois pour son livre « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique ». C'est évidemment à retrouver en podcast sur Radio Imo. Daniel Perron, pour en venir à ma question, croyez-vous que ces incendies de forêt, et en particulier ces méga-feux, soient désormais une fatalité?
Alors, une fatalité. Le problème, c'est que je crains que ce ne soit plus une fatalité. Je crains qu'en fait, ce soit notre activité à nous, humains, qui créons les conditions de ces feux par le réchauffement climatique. Alors, en ce sens, oui, on va être confronté de plus en plus souvent à cela. Alors, ça oblige en réalité à retravailler complètement la lutte contre le feu. Tout ce qui est prévention. Alors, on parle bien souvent en France, notamment des canadairs et autres, mais les canadairs, c'est lorsque le feu a pris. Il faut éviter que le feu prenne. Et en réalité, il y a tout un travail à faire vraiment très important de surveillance initiale, d'intervention sur les premiers points à faire. Joëlle Zask montre très bien cette évolution finalement du phénomène. En France, on est cet été, c'est 9000 hectares. Hein, donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un méga-feu hein, d'un point de vue américain, bien, bien loin, ou d'un point de vue sibérien ou canadien.
Mais ramené à notre échelle.
Alors, ramené à notre échelle, c'est très important en réalité. Et c'est à cela. Alors, on a 17 millions d'hectares de forêt en France. La vraie problématique de ces feux, c'est que les spécialistes hein, de l'ONF, par exemple, nous montrent qu'à la fin du 21e siècle, ce que l'on connaît comme risque feu aujourd'hui dans le Var sera finalement remonté jusqu'au nord de la France. Et on estime que ce risque-là sera sur la forêt de Fontainebleau à peu près vers 2050. Donc là, il faut vraiment retravailler toute cette politique. Alors, ce n'est pas seulement une politique française. Évidemment, c'est une politique française, ce sont des moyens français. Il y a aussi des moyens européens. Il faut sans doute faire quelque chose de ce point de vue-là. On est un peu en retard, oui.
Alors, la forêt française est très abondante, vous l'avez dit, 17 millions d'hectares. Et pourtant, ce sont les Chinois qui sont actuellement les plus gros acheteurs de stères, et en particulier pour le bois de chêne. Le prix des grumes de chêne s'envole littéralement pour ce bois très utilisé dans la construction ou l'ameublement. Est-ce que cette ruée de la Chine sur notre bois est une bonne nouvelle pour notre industrie forestière? Et est-ce que cette situation de forte demande sur le bois ne va pas entraîner une surexploitation de nos forêts?
Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Sur la surexploitation, non. Parce qu'il y a des aménagements et qu'on doit respecter les aménagements. C'est ces fameux documents administratifs sur lesquels, finalement, on va gérer les forêts. Donc, à partir du moment où on est sur des critères de développement, de gestion durable, on n'a pas de risque. Le risque, il est effectivement le risque prix. Alors, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'industriel, ici, qui veut que le prix soit le plus faible possible. Mais il y a aussi le point de vue, excusez-moi, mais du sylviculteur, qui lui a envie et besoin de vivre de sa forêt. C'est exactement la même problématique finalement qu'en agriculture. Il faut trouver cet équilibre. Alors, une fois que j'ai dit ça, bon, la problématique chinoise, elle est réelle, mais elle est en train de rebaisser. Mm-hmm. Elle est liée, effectivement, c'est une matière première. Donc, elle est liée à un rebond finalement des matières premières. Aujourd'hui, on n'est pas... d'après moi, les statistiques que je peux avoir aujourd'hui, hein, ça a quand même la surchauffe a diminué. Après, il faut sans doute avoir un vrai travail, mais le vrai travail, il est celui de l'industrie française. C'est une question, du coup, d'indépendance industrielle française. Est-ce qu'on est capable
de souveraineté, presque.
De souveraineté. Les sillages aussi ont beaucoup, finalement, se sont beaucoup exportés. Donc, c'est toute la gestion aval de la filière. Aujourd'hui, 440 000 emplois. Certains rapports disent qu'on pourrait en mettre 60 000 de plus si on la développait. Donc on serait à 500 000 emplois, c'est autant que l'automobile. Donc il faut prendre cette industrie au sérieux. Et alors, de mon point de vue, en tout cas, d'un point de vue de politique publique, la forêt, excuse-moi l'expression, mais c'est pas très moderne. Donc du coup, peut-être qu'on s'y intéresse moins. Et je pense que c'est là, le vrai enjeu, il est bien sur l'industrie française.
Bien sûr.
Et on commence déjà à ressentir certaines pénuries hein, sur cette filière bois.
Oui, tout à fait. Tout à fait, là. Mais c'est, au fond, c'est comme tout redémarrage économique, finalement, génère ce type d'effet. Donc il faut pouvoir, finalement, réguler ça. Alors après, il n'y a pas. On est aussi. Alors comme juriste, je vous dirais qu'il y a des règles à respecter, qui sont européennes, qui sont internationales avec l'OMC, etc. Donc il faut, là, il faut trouver un moyen. Sans doute, ça doit se trouver au niveau européen.
Philippe.
Oui, en fait, dans le prolongement de la précédente question, est-ce que notre filière bois en France est suffisamment forte et structurée? Bref, est-ce qu'elle est bien organisée pour alimenter tous les besoins nationaux avant de servir ceux de la Chine ou d'autres pays? On a bien compris que cette filière bois, elle existait, elle était en train de se structurer. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment de faire en plus pour qu'elle finisse de se structurer et qu'elle alimente les différents points économiques?
Alors, elle est en train de se structurer. C'est mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une petite discussion entre un député responsable des questions forestières et un président d'interprofession qui lui disait, enfin, le député disant au président d'interprofession, il faut quand même que vous fassiez quelque chose. Vous ne pouvez pas tout attendre du politique. J'ai trouvé ça intéressant. Et aujourd'hui, on est quand même toujours à deux interprofessions. On a aussi des interprofessions régionales. Donc, est-ce qu'on n'est pas à un moment où il faut une seule interprofession? Et derrière cette structuration, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre industrie? C'est-à-dire, encore une fois, on parle beaucoup du sillage, qui est extrêmement important, mais qu'est-ce que derrière ça génère? Et toujours cette question, moi je prends toujours, parce que je suis aussi spécialiste des questions agricoles, je prends toujours la même chose, c'est la même chose qu'en agroalimentaire finalement. Si on tue l'un des points de la chaîne, la chaîne se rompt. Et bien là, c'est pareil. Et je pense que ces gens-là ne discutent pas assez, au fond, entre eux.
Alors, au début des années 70, aux États-Unis notamment, il y a eu un écrit de Christopher Stone, me semble-t-il, qui, presque pour la première fois, a parlé d'une reconnaissance des droits juridiques aux objets naturels, dont les arbres. Et l'article de cet universitaire avait pour titre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Il y a eu ensuite Michel Serres. Et son contrat naturel, et à l'époque, la levée de bouclier à la sortie de ce livre. Alors, en tant que spécialiste de la forêt, quel est votre avis sur cette idée de doter la nature de droits spécifiques afin qu'elle puisse être un plaignant juridique de plein droit et éventuellement demander des réparations?
Alors, il faut se rappeler pourquoi Christopher Stone dit ça à l'époque. Il a besoin, dans un conflit devant une juridiction, il a un problème d'intérêt à agir. Personne n'a intérêt à agir pour sauver les séquoias de la vallée. Et donc, puisqu'il n'y a pas soit d'humain en tant que tel, soit de personne morale qui a intérêt à agir, qui pourrait avoir intérêt à agir? Christopher Stone dit, pourquoi pas les arbres? Et finalement, alors moi, en tant que juriste, je vous dirais, après tout, qu'un arbre est la personnalité morale. C'est pas plus fictionnel, au fond, qu'une société, qui est un bout de papier, avec une personnalité morale. Donc, moi, j'ai pas d'avis tranché. Je pourrais vous dire que le lundi, je suis pour, le mardi, je suis contre, le mercredi, j'hésite. J'ai pas d'avis tranché, mais je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir sur quels sont les moyens qu'on a pour mieux, j'allais dire, représenter la nature.
Il y a urgence aussi.
Il y a une urgence. Alors, je note, moi, que François Host, qui est un grand juriste européen, était plutôt contre. Et puis, petit à petit, on le voit dans une conférence qu'il a donnée au Collège de France, il dit oui, finalement, il y a urgence. Donc peut-être que c'est le pas symbolique qu'il faut faire. C'est la même problématique qu'on va avoir avec les animaux.
Bien sûr.
Et là, on voit les intérêts. On voit les intérêts en compte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ça.
Bien sûr.
Pour terminer avec une dernière question, Daniel Perron, une question un peu vertigineuse, un peu philosophique, peut-être un peu personnelle également. Est-ce que vous avez foi dans l'homme pour qu'il préserve la forêt et qu'il en fasse son allié, notamment face à ce réchauffement climatique?
Alors, l'homme sans la forêt, ça n'existera pas. Voilà. Bon, Donc je pourrais même juste finir ça. C'est évidemment qu'il a intérêt et qu'il doit sauver la forêt. Sinon, il n'y a pas d'humanité possible. Donc oui, j'ai foi. Maintenant, je pense qu'il y a urgence.
Merci. Merci beaucoup, merci infiniment Daniel Perron d'avoir accepté d'être notre guide pour cette promenade en forêt automnale. Je rappelle que vous avez publié La forêt française, une histoire politique, paru aux éditions de l'Aube. C'est un livre volumineux, 425 pages, mais qui peut aussi être lu sur liseuse si l'on veut éviter d'abattre des arbres.
Tout à fait.
Merci une fois de plus à Johanna ainsi qu'à l'équipe technique, Théo, Pierre-Yves et tous les autres de Radio Imo. On ne les voit pas, mais ils sont en régie et c'est aussi grâce à eux que cette émission a pu être réalisée. On se retrouve sous peu pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, on le sait, on le répète à chaque fois, cette émission peut être réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Imo et surtout les principaux lecteurs de podcasts. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest et Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou ce mec!
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.